La plupart des religions se sont fabriquées un dieu à la papa gâteau, mou comme de la guimauve, pas vraiment capable de faire grand-chose et relativement facile à manipuler. Il est diagonalement opposé au dieu unique et vrai qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Mais ce dernier n'a pas bonne presse, parce qu'il ne craint pas de punir comme il se doit toute forme du mal. En effet, Jean a entendu chanter dans le ciel « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ses jugements sont vrais et justes car il a condamné la grande prostituée, Babylone, et lui a fait rendre compte du sang répandu par sa main. » Puis l'apôtre entend un second « Alléluia !» car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Alors les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu !» Verset 4. Ici encore, on constate que le livre de l'Apocalypse fait une distinction entre l'Église et les croyants de la tribulation. En effet, les 24 vieillards qui représentent l'Église se joignent au cœur des martyrs qui constituent la foule immense sortie de la tribulation. Les 4 êtres vivants qui font partie d'un ordre d'anges supérieurs appelé chérubins chantent aussi Alléluia. Avec les 24 vieillards, ils adorent Dieu tout au long de la révélation qui est donnée à Jean. Ici, ces deux groupes s'écrient « Amen, loué soit Dieu ». Une citation d'un psaume où le psalmiste adore Dieu en disant « Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité » et que le peuple entier réponde « Amen, loué l'Éternel ». « Amen » signifie « Oui, qu'il en soit ainsi ». Ce qui veut dire que ces deux groupes participent de tout cœur aux réjouissances suscitées dans le ciel par la chute de Babylone, car cette destruction était nécessaire pour que le Seigneur établisse son royaume sur terre. Je continue le texte. « Et du trône partit une voix. Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Verset 5. Jean ne dit pas qui parle, mais comme cette voix s'adresse à notre Dieu, ça ne peut qu'être une créature, sans doute un ange, et il exhorte petits et grands, c'est-à-dire toute la population du ciel, à louer Dieu. Je continue. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Verset 6. Cette foule immense est la même que précédemment. Ce sont les croyants martyrs de la tribulation. Une fois que tous les habitants du ciel se mettent à chanter, ça fait du monde, et cette foule nombreuse doit faire un bruit retentissant, puisque Jean le compare au grondement assourdissant du tonnerre et à de grandes eaux. Ce que l'apôtre entend lui fait probablement penser au son émis par une grosse chute d'eau qui frappe les rochers tout en bas. Il est vrai que c'est bruyant. Je continue. Elle disait cette voix, « Alléluia, loué soit Dieu !» car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 6. Cette cantate céleste fait entendre un quatrième Alléluia. Puis la raison de cette joie nous est donnée, c'est toujours la même. Maintenant que Babylone, la tête de l'empire de l'Antichrist, est détruite, le Seigneur va enfin pouvoir régner sur la terre comme dans le ciel et la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sera exaucée. Alors aussi s'accomplira la promesse que l'Éternel a faite au roi David quand il lui a dit « Oui, je rendrai stable pour toujours la dynastie de ta royauté et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Ces réjouissances célestes sont prophétiques, mais c'est tout comme si le royaume était déjà bien en place, car rien ne saurait s'opposer à la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Un titre qui revient 9 fois dans le livre de l'Apocalypse. Je continue le texte. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Verset 7. les habitants du ciel ont plusieurs raisons de se réjouir. Justice a été rendue, Babylone est en ruine. Dieu prend toutes les rênes en main et assume sa souveraineté sur le dernier lopin de terre qui lui était insoumis, et Jésus s'apprête à y établir son royaume 2000 ans. Enfin, les cieux sont dans la joie parce qu'on se prépare à célébrer le plus grand mariage de tous les temps, les noces de l'agneau, une expression qui demande une explication. Dans la culture juive, l'événement familial le plus important était le mariage. Il signifiait l'union de deux familles et avait de fortes implications économiques. Sa préparation et célébration étaient bien plus élaborées qu'aujourd'hui, car elles duraient environ un an si les futurs époux étaient en fin d'adolescence et plusieurs années s'ils étaient encore enfants. Chez les Juifs, le mariage a plusieurs étapes, mais avec des variantes. La première consiste à établir une alliance formelle, un contrat entre les familles. Si les futurs mariés sont adultes, le jeune homme se rend à la demeure de sa belle et négocie avec son père le prix qu'il doit verser pour obtenir la main de la jeune femme. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, le futur époux rassemble la somme et la verse. Puis il retourne chez lui. Cependant, une fois que le prix convenu est payé, l'alliance est scellée et les jeunes gens sont dits fiancés. Mais en réalité, ils sont légalement mariés. La jeune fille appartient alors exclusivement à son mari, même s'ils ne cohabitent pas ensemble. Comme symbole de l'alliance ainsi établie, les deux conjoints boivent ensemble une coupe de vin qui a été bénie. Si ce sont les patriarches de deux familles qui décident d'établir une alliance en mariant leurs enfants, ce sont eux qui s'accordent sur le prix. Si les jeunes gens sont déjà d'un certain âge, ils s'arrangent et scellent l'alliance entre eux. Dans tous les cas, ces fiançailles, qui sont en réalité un mariage, ont force de loi et ne peuvent être rompues que par un divorce en bonne et due forme. Comme je l'ai dit, une fois que le jeune homme a versé la somme convenue, il retourne dans la maison familiale et pendant l'année qui vient, il prépare un logement dans la maison de son père pour son épouse et lui. La femme, qui est donc maintenant mariée, rassemble son trousseau, ce qui peut inclure divers biens, des bijoux de famille ou encore des propriétés que lui lègue son père en dot. Le mariage est toujours une affaire de famille et non pas individuel. Vers la fin de l'année qui suit l'alliance maritale, l'époux rassemble ses amis et de nuit, à la lumière de flambeaux, il forme une procession qui se rend chez son épouse. Celle-ci ne sait pas d'avance le jour où son mari viendra la chercher, ce qui veut dire qu'elle et ses demoiselles de compagnie doivent se tenir prêtes à tout moment. L'arrivée de la procession est précédée par un héraut qui pousse un cri afin de donner à l'épouse le temps de rassembler ses affaires et sa suite. Puis, quand tout est prêt, la procession retourne joyeusement dans la maison de l'époux. Cependant, les conjoints restent séparés et l'épouse est voilée. À leur arrivée, ils trouvent tous les invités qui s'étaient rassemblés pour le repas de noces. Dès le début du repas, les mariés quittent les invités et vont dans la chambre nuptiale. Une fois qu'ils se sont unis, le mari sort pour annoncer la bonne nouvelle et la fête continue encore plusieurs jours, durant lesquels l'épouse reste dans la chambre avec son mari. À la fin des festivités, l'époux présente aux convives sa femme sans son voile afin que tous puissent faire sa connaissance. Les Écritures appliquent les coutumes juives du mariage à la relation de l'Éternel avec Israël et de Jésus-Christ avec l'Église qui est son épouse. L'alliance de la loi sur le mont Sinaï est le contrat de mariage entre Dieu et son peuple, et Moïse est l'ami et le témoin de l'époux. Aujourd'hui, les mariés symbolisent leur alliance en échangeant des bagues. Dans l'Ancien Testament, c'était le respect du sabbat qui servait de signe, et sous le régime du Nouveau Testament, Jésus a donné le Saint-Esprit aux membres de son Église. L'apôtre Paul écrit « Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage. Ici, le mot traduit par « acompte » signifie littéralement « gage »,« garantie » et aussi « bague de fiançailles ». En résumé donc, le mariage juif des temps bibliques consistait en trois grandes étapes. Premièrement, une alliance était établie entre les familles. Elle était scellée quand l'épouse, son père, versait une somme d'argent au père de l'épouse. Ce contrat légal était les fiançailles, ou plutôt les épousailles, car il avait force de loi et ne pouvait être révoqué que par un divorce. L'époux donnait aussi un bijou ou un objet de valeur à son épouse pour symboliser leur union, car ils étaient considérés mari et femme, et elle prenait le nom de son mari. Cette première étape du mariage juif a commencé à être appliquée à l'Église, à la Pentecôte, et se poursuit toujours. Deuxièmement, environ un an après l'alliance des deux familles, le mari rassemblait ses amis et il formait une procession pour aller chercher son épouse, accompagnée de sa suite, et la ramener dans la maison de son père. Pour l'Église, cette étape aura lieu au moment où elle sera enlevée au ciel. L'apôtre Paul écrit qu'au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Troisièmement, avait lieu le repas de noces avec de nombreux invités. Cette étape aura lieu pendant le millénium sur terre et elle sera l'occasion d'une gloire et d'une joie ineffables, comme une lune de miel qui dure 1000 ans. Et ce n'est que le début. Les principales caractéristiques du mariage juif se retrouvent dans les cérémonies modernes, mais condensées dans le temps et pas tout à fait dans le même ordre. Quand le père amène sa fille et la place à côté de son futur époux, il signifie qu'il approuve d'avance cette union, ce qui lui donne force de loi. La promesse des époux de prendre l'autre pour mari ou femme et de lui être fidèle constitue l'alliance. Les époux échangent des bagues qui symbolisent leur union. Ensuite, ils sont déclarés mari et femme et sont présentés aux amis et parents comme monsieur et madame, et elle porte le nom de son mari. Puis l'époux prend la femme que le père lui a donnée par la main et l'accompagne jusqu'à la sortie. Les époux sont escortés par les compagnons du mari et les dames d'honneur de la femme, ce qui forme une petite procession. Ensuite a lieu une réception et un repas de noces avec les invités. Enfin, le couple quitte la salle de noces et va dans un lieu privé qui est leur chambre nuptiale. On voit bien que, comme je l'ai dit, la différence essentielle entre la coutume juive du mariage des temps bibliques et la nôtre est uniquement le temps. Au lieu de s'étaler sur un an ou plus, aujourd'hui tout se fait en un jour, quelquefois deux jours. Il y a 2000 ans, Jésus a quitté la demeure de son père et est venu sur terre pour chercher l'Église, son épouse. Afin de l'obtenir, il a établi une alliance en son sang, et c'est aussi le prix qu'il a dû verser sur la croix. L'apôtre Paul écrit à des croyants « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à grand prix, et encore, j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancés à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » Paul dit aussi que cette Église sera présentée dans les cieux à Jésus-Christ comme une épouse rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Jean-Baptiste, et Paul en particulier, ont rempli la fonction de l'ami et témoin de l'époux. Quand les croyants se laissent influencer par tout ce qui les entoure, ils se rendent coupables d'adultère spirituel à l'égard du Seigneur. Dans son épître, Jacques écrit « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu, Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Le contrat de mariage de l'Église avec Jésus-Christ a été signé de toute éternité quand le Père a promis à son Fils un peuple racheté et a écrit le nom des élus dans le livre de vie. Après avoir établi l'alliance et être ressuscité des morts, Jésus a quitté la terre, la demeure de son épouse, et est retourné au ciel dans la maison de son Père. Puis il a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait promis et prépare une habitation pour son Église. Peu avant de mourir, il a dit à ses disciples « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Jésus a confirmé cette volonté dans la prière sacerdotale quand il a dit « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Cela fait maintenant presque 2000 ans que le Seigneur et son Église sont séparés. Mais tout comme l'Église ne savait pas exactement quand son mari viendrait la chercher, les croyants ne savent pas non plus quand Jésus reviendra pour enlever son Église et l'emmener dans la maison du Père, où ils commenceront déjà à jouir de la félicité éternelle. Nous sommes maintenant arrivés à la fin des 7 années de tribulation, et Jean dit, littéralement, « le mariage de l'agneau est venu », ce qui signifie que cet événement est sur le point d'avoir lieu. L'Église est prête pour cette immense célébration dont le début coïncide avec l'établissement du règne du Christ sur terre qui se poursuivra pendant 1000 ans pour finir par la félicité éternelle dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Cependant, dans l'éternité, les distinctions seront effacées et ce seront tous les rachetés de tous les temps qui constitueront l'épouse de l'agneau et qui seront mariés à l'Éternel, tandis que la Nouvelle Jérusalem sera leur ville nuptiale. Je continue le chapitre 19 de l'Apocalypse. La fiancée de l'agneau s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Versets 7 et 8. En ce moment, en attendant que le Seigneur vienne la chercher dans les airs, l'Église se prépare en constituant son trousseau qui se compose des œuvres justes réalisées par tous les croyants. En effet, l'apôtre Paul écrit « Nous sommes l'œuvre de Dieu façonnée à l'image de Jésus-Christ » afin que nous accomplissions les bonnes actions que Dieu a préparées à l'avance. Dieu a fait une liste de ce qu'il veut que je fasse pour lui. Le problème est que je suis totalement incapable d'accomplir la moindre bonne œuvre sans qu'elle soit entachée d'égotisme. Qu'à cela ne tienne, Dieu prend en compte ma bonne volonté et ma fidélité à son égard, bien que celle-ci laisse également à désirer. Cependant, comme le Seigneur ne peut pas accepter l'imperfection, mes bonnes actions polluées sont purifiées par le sang du Christ, et toutes les scories que je traîne comme des casseroles seront brûlées. L'apôtre Paul écrit, « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » Fin de citation. Après l'épreuve de feu, il ne restera plus que des accomplissements parfaits aux yeux de Dieu. Aux noces de l'agneau, ses œuvres pures, en or et en argent, agrémentées de pierres précieuses, orneront et embelliront la robe de mariée de l'Église qui est dite d'un lin pur éclatant. Or, cette étoffe, d'une grande beauté, était très onéreuse. Les vêtements du grand prêtre étaient en lin, ainsi que ceux des anges porteurs des sept coupes de la colère de Dieu et des armées célestes qui accompagnent Jésus quand il revient sur terre pour établir son royaume. Il va sans dire que les croyants sont justes parce qu'ils sont déclarés comme tels par pure grâce, la justice du Christ leur étant imputée. Cependant, une fois glorifiés, ces mêmes croyants seront justes en eux-mêmes, tout comme les anges. En effet, l'apôtre Jean écrit que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est.